Bon, je recommence, bonsoir tout le monde. Navré pour ceux qui voulaient les nouvelles technologies à la place, vous avez les traces de sang. C'est visuel, c'est pas mal, c'est rouge, c'est moins technique. Le but ce soir, c'est pas de donner un cours sur comment faire de la morphoanalyse, c'est plutôt vous expliquer ce qu'est la morphoanalyse, comment on la pratique et ce que ça peut apporter dans une enquête judiciaire. Donc tout d'abord, en quelques mots, je vais me présenter. Je suis donc employé à l'Institut de recherche criminelle depuis 2 ans. Je suis expert en morphoanalyse et traces de sang. Auparavant, j'ai fait 8 ans de police technique sur le terrain en gendarmerie en tant que technicien d'identification criminelle. C'est ce qui m'a conduit à l'IRCG. Donc la morphoanalyse des traces de sang, là vous avez une petite référence biblique pour vous montrer que les traces de sang, ça a intéressé tout le monde depuis des lustres. La preuve, la Bible en parle également. Plus sérieusement, non pas que la Bible ne soit pas sérieuse, la morphoanalyse des traces de sang est quelque chose de nouveau en France, nouveau en criminalistique, mais très ancien dans ses fondements. Comme vous allez le voir dans les quelques dates qui sont marquées derrière, le premier traité qui parle de morphoanalyse date de 1895. Ça fait plus d'un siècle que la morphoanalyse et ses principes existent et ont été créés. C'est un médecin légiste polonais, le docteur Piotrowski, qui tout simplement a fait des essais en prenant des animaux, prenant divers outils, diverses armes, à taper sur les animaux, couper les animaux pour observer les traces de sang qui étaient donc produites à l'issue, les décrire et en faire une systématique. Ses premiers travaux, 1895. La morphoanalyse en France date de 1995, 100 ans après. Il faut savoir que ces travaux de 1895, au jour d'aujourd'hui, en 2008, n'ont jamais été remis en cause. Ils ont été précisés, complétés, parce que les techniques ont évolué, mais les fondements mis en avant en 1895 sont toujours valables actuellement. Deuxième date importante, et pour une fois cocorico, c'est un Français. 1939, congrès de médecine légale à Lyon, le professeur Balthazar, médecin légiste, reprend les travaux du docteur Piotrowski de 1895, les réessaye, donc les revalide finalement, puis les complète. Notamment, c'est le premier qui va insérer une notion intéressante, ratio largeur-longueur. Ce ratio-là sert à calculer la trajectoire d'une goutte de sang dans l'espace. C'est un principe tiré de la balistique. Ce principe, pour la petite histoire, date de 14-18. Tout simplement, les artilleurs français qui prenaient des obus depuis les lignes allemandes, entre guillemets, couraient examiner les trous d'obus, mesuraient la largeur et la longueur de ces trous d'obus, prenaient une formule trigonométrique de base, calculaient et estimaient la position de la batterie adverse et renvoyaient un obus en sens inverse pour faire mouche. Ce principe-là, c'est un principe de balistique. Ce principe est valable pour de la balistique obus, pour de la balistique balle, mais pour de la balistique trace de sang. Pour information, ce qu'on appelle maintenant l'étude de trajectoire d'une goutte de sang, en 1995, on appelait ça la balistique des traces de sang. Donc ce sont des principes balistiques adaptés aux traces de sang. Donc 1939, ça a été la grande avancée pour ce principe-là. De 1895 à 1955, ce domaine de morphoanalyse, que l'on n'appelait pas encore la morphoanalyse, est très confidentiel. Il est la spécialité des médecins légistes. Il reste dans un milieu confiné de chercheurs et n'est jamais utilisé ou très très peu en criminalistique. 1955 est une date importante, pourquoi ? Parce que c'est un procès médiatique qui a lieu aux États-Unis, que tout le monde connaît sous le nom Le Fugitif avec Harrison Ford au niveau du film. C'est le docteur Shepard qui est accusé du meurtre de sa femme. Et ce docteur sera innocenté en appel grâce à la morphoanalyse notamment. C'est la première fois que la morphoanalyse sort d'un domaine confiné médecine légale pour être portée sur la place publique. Et à partir de cette date-là, de 1955, ce ne sont plus des chercheurs médecins légistes qui vont pouvoir travailler dans ce domaine-là, c'est monsieur tout le monde. 1971, nouvelle remise à plat de la morphoanalyse, ce coup-ci non pas par un professeur mais par un monsieur, donc Herbert McDonnell, qui lui reprend les travaux de 1895 et 1939, les réessaye, les revalide et les complète. Ce sont ce qu'on va appeler les traités modernes de morphoanalyse, qui ne sont rien ni plus ni moins qu'une remise à niveau d'un dépoussiérage de ce qui était déjà su en 1895. 1983 est une date importante pour tous les morphoanalystes. C'est la première fois qu'une association internationale est créée pour regrouper l'ensemble des morphoanalystes qui font ce travail-là dans le monde et qui veulent répondre à un même critère, une même standardisation dans la façon de travailler. Cette association, l'IABPA, existe toujours et actuellement regroupe à peu près 850 membres. Il faut savoir que sur 850 membres, vous en mettez une cinquantaine pour le continent européen, asiatique, et tout le reste, c'est nord-américain. 2003, ce qui a été fait en 1939 et 1971 est refait sous l'égide du FBI, donc aux États-Unis. On reprend les travaux de morphoanalyse, on les vérifie et on les complète avec les techniques actuelles. On introduit également des notions d'assurance qualité, quelque chose qui est très en vogue de nos jours, notamment pour la mise en place de protocoles figés qui permet à un morphoanalyste, mettons aux États-Unis, de travailler avec un protocole similaire à ce qui peut se faire en Europe et vice-versa, pour avoir une continuité dans la façon de faire. Donc, comme vous pouvez le voir, la morphoanalyse dans ses principes est très ancienne, 1895. Au niveau gendarmerie et au niveau France, parce que malheureusement, je dirais, il n'y a que la gendarmerie qui produit cette spécialité en polytechnique, les premiers travaux datent de 1995. À l'origine, c'est le médecin-chef Chouliard qui les a initiés, relayés après par un de mes collègues qui maintenant a quitté l'Institut, donc l'adjudant Esperanza pour ceux qui connaissent, qui était déjà venu précédemment exposer la morphoanalyse, notamment l'année dernière, qui lui a suivi les formations aux États-Unis et a amené le complément à la gendarmerie pour mettre en place une activité morphoanalyse. Actuellement, en France, nous comptons trois morphoanalystes formés, validés pour emploi. Donc l'adjudant Esperanza qui n'est plus à l'Institut, moi-même et ma collègue qui sommes à l'Institut. La police, malheureusement, n'a pas développé cette spécialité. Pas encore. La morphoanalyse, le mot peut paraître compliqué, pourtant en lui-même il est très simple. Morphoanalyse, analyse de la forme. Tout simplement, la morphoanalyse de la trace de sang, c'est l'étude de la forme d'une trace de sang dans le but de déterminer, entre autres, son mécanisme de création. Les travaux de 1895, 1939 et 1971 ont permis d'affirmer qu'à une forme de trace particulière, à une distribution géographique de cette trace par rapport à d'autres, on est certain que le mécanisme de création est ce mécanisme-là et pas un autre. Un mécanisme de création, ça va être un coup de poing, l'usage d'une arme à feu, un coup de couteau, un bras ensanglanté qui est bougé, du sang qui perle du nez parce que vous saignez du nez. Ça, c'est ce qu'on va appeler un mécanisme de création. À ces mécanismes de création, la forme et la distribution géographique des traces sont figées. Actuellement, en fonction des classifications les plus riches qui existent, sur une scène de crime, quelle que soit son importance, si on exagère et qu'on prend le château de Versailles, qu'on le badigeonne de sang parce qu'on a fait 15 meurtres dedans, on peut catégoriser 27 types de traces de sang différents, ce qui est peu. L'étendue de la scène de crime ne créera pas plus de traces de sang qu'il en existe dans les classifications. Et 27, c'est un nombre riche. On a plutôt tendance à concentrer et à diminuer ce nombre de traces. Pouvoir déterminer ce qui a créé les traces de sang, c'est bien. Pouvoir dire que c'est un coup de poing, la manipulation d'un élément ensanglanté, c'est très bien. Le but, il faut que ça apporte quelque chose à l'enquête. Quel est le but premier de la morphoanalyse ? C'est d'essayer de déterminer le scénario des événements sanglants. Et j'insiste bien sur le mot « événements sanglants ». Pourquoi ? Parce que la morphoanalyse est un élément de la police technique et scientifique. À elle toute seule, la morphoanalyse ne permet pas d'expliquer une scène de crime complexe qui va comporter aussi bien des traces de sang, si on est présent, c'est parce qu'il y en a, de la balistique, s'il y en a, de l'empreinte digitale et de l'ADN. Dans un domaine d'expertise, on travaille avec des œillères, c'est-à-dire qu'on a connaissance exclusivement des éléments nécessaires à notre expertise, pour nous, les traces de sang. D'où j'insiste sur les événements sanglants. Ces événements sanglants, et le commandant Perrotte tout à l'heure, lorsqu'il vous a montré une vidéo avec deux hypothèses, une balistique et une trace de sang qui étaient en opposition, cette opposition existe, je ne dirais pas est classique, mais se produit régulièrement, et s'explique par le fait que chaque domaine expertal travaille exclusivement dans sa matière. Nous, les traces de sang vont nous dire certaines choses, on est obligé de les détacher de l'environnement des autres éléments de preuve pour les expliquer. Sinon, on perd de l'objectivité des traces de sang. On devient subjectif et donc plus facilement attaquable. Donc, dans ce scénario, qu'est-ce qu'on va essayer de mettre en avant ? Ça ne va pas vous dire que M. X est rentré à telle dans une maison pour aller vers tel point à telle heure. Non, ce qu'on va essayer de dénombrer, c'est le nombre de coups portés s'il y a eu des coups, leur emplacement, leur hauteur approximative, la distance entre différents coups, une chronologie sanglante des faits. Cette chronologie va être purement visuelle. Elle ne va pas être technique. Actuellement, il n'y a aucune technique qui permet de dater l'ancienneté du sang. Aucun pays au monde n'a pu mettre une technique permettant, par rapport à une goutte de sang, de dire « elle a 3 heures, 15 jours ou un mois ». Ça n'existe malheureusement pas. Ce qui pose comme limite à notre domaine d'expertise que toute trace de sang découverte sur une scène de crime est forcément concomitante au fait, avec les erreurs que cela peut impliquer. À démontrer après que ces traces de sang étaient déjà présentes ou sont postérieures au fait. Un deuxième point qu'on va essayer de mettre en avant au travers de la morphoanalyse, c'est de localiser les faits. Si vous rentrez dans cette pièce et qu'il y a du sang partout, c'est pas pour autant que le crime sanglant a eu lieu ici. La personne a pu être blessée à l'extérieur, être portée ou se déplacer jusqu'à l'intérieur de la maison où elle est morte. Donc déjà, notre travail, nous, même si ça peut paraître évident, c'est de pouvoir dire aux gens, oui, les faits sanglants se sont bien passés, la commission de l'acte violent sanglant s'est bien passée à tel endroit. Ou non, il n'a pas pu se passer là. Dans certains cas, notre travail va dire, mais attendez, votre crime, ce n'est qu'un suicide. Ou tout du moins, nous n'avons pas de signe d'un élément violent pouvant expliquer ce qu'il s'est passé. Si jamais vous prenez le cas d'un coup de couteau, une cuisinière qui se coupe le doigt en épluchant un légume ou quelqu'un qui vient sans trop de violence planter un coup de couteau, les traces de sang qui vont être créées vont être les mêmes. Ce n'est pas pour ça qu'on pourra différencier en regardant la trace de sang si c'est un acte volontaire ou un acte non volontaire. Troisième petit point particulier qui est de plus en plus employé par les magistrats, en complément de la morphoanalyse, donc de cet examen des traces de sang sur une scène de crime, nous pouvons confronter les auditions recueillies, que ce soit des auditions de témoins ou de personnes mises en examen, afin de voir si les dires sur les événements sanglants, encore une fois, si les dires que la personne avance sont compatibles avec les traces de sang observées. La façon donc, que vous allez voir après, nous avons de traiter une scène de crime au niveau sanglante, est une façon objective, à savoir qu'elle est totalement isolée des éléments d'enquête qui ont pu déjà être découverts et connus. Elle se base uniquement sur un élément purement matériel qui est la goutte de sang dans son emplacement géographique et de ce que nous dit cette goutte de sang là où elle est placée, ce qui la rend objective au niveau de son interprétation. Comment est-ce que l'on fait de la morphoanalyse ? Il y a toute une phase qui se fait pour le moment encore sur une scène de crime. C'est ce que vous voyez en haut. Vous avez donc une étape scène de crime et une étape que j'ai appelée labo IRCG. Scène de crime parce que le meilleur moyen de savoir si toutes les traces de sang ont été vues, c'est d'aller les voir par soi-même. En effet, un TIC, un technicien en identification criminelle qui va gérer une scène de crime, est un généraliste de la PTS, c'est-à-dire qu'il va devoir traiter aussi bien de la goutte de sang, de la balistique, de l'empreinte digitale. Donc il a un regard avisé dans beaucoup de domaines. Nous, de même que dans d'autres domaines, on a un regard exclusif dans un domaine, ce qui nous rend plus sensibles à le découvrir. Notre travail, nous, lorsqu'on intervient, c'est de rechercher toutes les traces de sang et d'en faire un catalogue. Donc le transport sur une scène de crime est totalement nécessaire, voire encore obligatoire. De ce transport sur une scène de crime, on va le détailler après, nous allons faire des constatations. Puis, de ces constatations qui permettent de rechercher des traces de sang, nous allons les cataloguer, comme je vous ai dit tout à l'heure, découvrir les mécanismes de création. C'est ce qu'on appelle l'étape morphoanalyse. Si jamais nous avons la chance, navré pour les victimes, d'avoir des projections issues de choc, nous allons éventuellement essayer de positionner la position de la blessure, donc de la victime, lorsque le choc a été porté. C'est ce que nous appelons une étude de trajectoire. Toute cette partie-là, ces trois points-là, sont faits sur le terrain. Lorsque tout cela est fait, cette partie objective qui est matérielle, et que nous rentrons à l'Institut à Rosny-sous-Bois, nous rentrons dans un domaine plus subjectif. Nous élaborons des hypothèses. Nous en formulons une privilégiée. Pour nous, les traces de sang veulent dire qu'il s'est vraisemblablement passé ça. Maintenant, il n'y en a pas qu'une seule et unique. Il y en a plusieurs. C'est celle qui nous paraît la plus probable au regard de l'enchaînement des traces de sang. Les constatations. En ce qui nous concerne, pour nous, morphoanalystes, rien de bien compliqué. Des bons yeux, une bonne lampe, un mètre ruban et au travail. La chance veut, c'est ce que vous voyez en haut à droite en incrustation, que vous verrez de plein pied tout à l'heure sur une autre photo, qu'à l'Institut, un département bien particulier, qui est le département qui fait de la modélisation 3D, a acquis un superbe appareil qu'on appelle un laser scan. L'avantage de cet appareil, c'est qu'il ne remplace pas nos yeux, mais il remplace toutes les notions d'emplacement géographique de la trace, prise de côte. Il vous permet, en un temps record, on va dire, parce que pour l'avoir testé avec des gens du département concerné, en une dizaine de minutes, une pièce complète en un scan est numérisée, ce qui vous permet d'extraire toutes les données techniques, cotation, autre chose, dont vous avez besoin pour travailler après. Avec une fidélité telle que vous n'aurez jamais en travaillant à la main, parce que vous avez des précisions qui sont inférieures au millimètre. Donc on a un outil précieux maintenant d'aide à la constatation qui est le laser scan. Sinon à la base, une bonne paire d'œils, parce que pour les autres c'est plus difficile, une lampe et ça marche très bien. La constatation visuelle, c'est on recherche visuellement les traces de sang. Me direz-vous, il y a un petit problème, c'est que les traces de sang, c'est bien, mais encore faut-il les voir. Dans certains cas, les gens, lorsqu'ils ont commis un acte violent, vont nettoyer les lieux ou, parce que c'est en extérieur, il a plu, les traces de sang vont être diluées et vont disparaître. Dans ces cas-là, comment fait-on ? Tout simplement, on emploie certains réactifs chimiques ou certains produits pour essayer de faire réapparaître les traces de sang qui ont pu être nettoyées. Alors, malheureusement, dans ces cas-là, on ne retrouvera jamais la forme d'origine de la trace de sang qui a été effacée. On trouvera des signes du nettoyage qui ont conduit à effacer les traces de sang. Mais en tout état de cause, c'est ce que vous voyez ici dans ce lavabo, ces traces bleutées que vous voyez, ce sont des traces de sang. Tout du moins, des traces de sang qui ont été nettoyées, dégradées ou autre chose. Je ne sais pas si vous allez bien la voir, c'est un petit film qui vous montre une détection, ce que ça peut produire. Donc le bleu qu'on voit apparaître progressivement, c'est l'endroit où il y a du sang qui a été effacé, qui a été nettoyé. Donc quand vous voyez le type de trace que vous voyez apparaître, vous ne reconnaissez pas une trace de sang classique, que ce soit une goutte ou autre chose. Encore une fois, quand vous nettoyez quelque chose, la trace d'origine disparaît. Vous n'avez plus que la trace de serpillière qui est visible, ou la trace d'éponge. Donc la particularité du produit de détection qu'on utilise, c'est qu'il ne tue pas l'ADN. C'est-à-dire que pour nous, en criminalistique, si l'on apporte un élément nouveau, comme il y a eu nettoyage, il y a du sang nettoyé, si on ne peut pas aller plus loin en disant oui, mais est-ce que c'est du sang humain, du sang animal, ou est-ce qu'il appartient à la victime ou à une tierce personne, quel est l'intérêt d'apporter cet élément ? On ouvre une porte qu'on ne pourra jamais fermer. L'intérêt de ce produit-là, c'est que n'étant pas destructrice de l'ADN, les expertises génétiques sont toujours possibles après. Donc là, ce sont des photos d'exercice, mais ces photos-là ne sont pas aberrantes. Quelqu'un qui va nettoyer copieusement une pièce, si vous prenez cette pièce ici et que vous nettoyez copieusement avec de l'eau souillée, si vous éteignez la lumière, que vous balancez ce fameux produit, vous ne verrez pas comme en plein jour, mais vous verrez du bleu foncé partout. Ce que vous voyez ici, ce n'est qu'une des classifications possibles des fameuses traces de sang dont je vous ai parlé. Si vous les dénombrez, comme je disais, il y en a à peu près 27. À savoir que c'est en cours de restriction au niveau du nombre. Ce qui est intéressant à retenir, c'est simplement la façon dont elles sont classées. Vous avez trois grandes familles. Vous avez une famille qu'on appelle les traces passives, une famille qu'on appelle les traces projetées, une famille qu'on va appeler les mécanismes secondaires ou les traces altérées. Ces grandes familles sont liées au grand principe de création de la trace de sang. On va les détailler un peu après. Qu'est-ce que l'on va appeler une trace passive ? Une trace passive, c'est une trace qui n'aura subi que la simple action de la force de gravité. Un exemple, vous saignez du nez, vous êtes debout, vous ne bougez pas, le sang goutte de votre nez, tombe par terre. C'est pas, vous n'avez pas secoué la tête, vous n'avez pas pris de coup, le sang s'écoule naturellement depuis une blessure, c'est une goutte purement passive. Elle n'a subi que l'action de la force de gravité. Cette famille de traces passives, ce n'est pas la famille qui permet de déterminer qu'on a eu un acte violent sanglant qui s'est commis à un endroit. C'est plus des traces liées à des déplacements d'individus. Si je trouve plein de gouttes circulaires comme celles que vous voyez en haut à gauche, je ne pourrais pas dire qu'il y a eu des violences. Je pourrais dire que quelqu'un a saigné à cet endroit-là, éventuellement s'est déplacé d'un point A à un point B, et éventuellement, si la trace est déformée, pouvoir orienter son déplacement, mais à aucun moment, je pourrais dire qu'elle a pris un coup dans cette pièce. Vous avez ou la trace unique, la personne elle est debout, elle ne bouge pas, le sang, il y a une goutte qui tombe, après elle masque sa blessure, c'est tout ce que ça veut dire. Vous pouvez avoir plusieurs traces alignées qui vous font un cheminement, là ça veut dire que d'un point A, la personne s'est rendue à un point B. Ou bien vous aurez ce que vous avez en bas à droite, un nuage de taches, sans répartition particulière, ça veut dire que la personne elle est restée debout, quasiment statique, en chancelant légèrement, et qu'elle a simplement perdu du sang depuis son nez. Et puis, dernière catégorie, en bas à gauche, là la personne elle est statique, elle ne bouge pas, le sang tombe par terre, le sang tombant dans les gouttes de sang va créer une petite flaque, et là on sait qu'elle a perdu régulièrement du sang sans bouger. Encore une fois, ça indique des positions d'individus ou des déplacements, nullement des violences portées. Trace passive, nous avons autre chose. Reprenez la trace qui était en bas à gauche, cette fameuse petite flaque avec ses petites gouttes tout autour. Au lieu que la personne soit debout, elle est couchée par terre, vous obtiendrez la trace qui est en bas à gauche, une flaque. Vous n'avez plus de hauteur, donc le sang ne goutte pas et ne vient pas heurter le sol et se disloquer. Il s'écoule normalement et forme une flaque. C'est les positions de découverte de corps essentiellement. Une personne qui est blessée, volontairement ou involontairement, qui va masquer sa blessure, pour peu qu'elle enlève ce qui masque la blessure, un amas de sang peut tomber. Un amas de sang peut tomber, vous fera la trace que vous avez en haut à gauche. C'est un volume de sang qui vient tomber sur le sol. Encore une fois, ce n'est pas en rapport avec une violence portée sur une personne. C'est du purement passif. Et en dernier cas, ce que vous avez à droite, si votre trace de sang, votre flaque ici présente, le sang va s'écouler en suivant les irrégularités du support, donc les joints de carrelage, il va donc venir se répandre comme ça. Encore une fois, c'est pas signe de la commission de violence. Deuxième grande famille, les traces projetées. Celles-ci sont très intéressantes parce que ce sont celles qui sont vraiment significatives de commission d'actes violents sanglants. Actes violents sanglants, ça va être usage d'armes à feu, batte de baseball, coup de poing, coup de couteau, tout ce qui va projeter du sang. Pourquoi elles sont projetées ? Parce qu'en plus de la force de gravité qui va toujours les attirer vers le sol, vous avez une force externe qui vient s'ajouter. Si jamais, je reprends mon exemple, je saigne du nez. Donc le nez, le sang s'accumule et finit par tomber. Si quelqu'un vient me donner un bon coup de poing sur le nez à ce moment-là, le sang qui est présent au niveau de la blessure va exploser, va se disperser et va être dispersé dans l'espace. Donc là, le sang va finir toujours par tomber par terre, parce que la force de gravité l'attire sur le sol. Mais ce qui va le propulser avant de tomber au sol, ce n'est pas la gravité, c'est le coup de poing que je vais lui donner, ou la batte de baseball que je vais utiliser, ou l'arme que je vais utiliser. Donc là, j'ai une force externe qui s'ajoute, j'ai du sang qui est projeté. Donc là, comme les travaux de 1895 et suivants l'ont montré, la répartition géographique des traces, éventuellement leur taille, et la forme des traces est caractéristique. Donc là, vous avez une vidéo qui, à l'origine, est à haute vitesse pour bien montrer que lorsqu'un coup est porté sur une source sanglante, le sang se disperse dans l'espace. Quand il dit se disperse dans l'espace, c'est en trois dimensions, sol, mur, plafond. Ce n'est pas une ligne. Sur l'exemple en question, on voit bien que le mur derrière, les deux murs sont couverts. La personne qui a manipulé l'arme en question en a pris pour son garde aussi. Donc si jamais on reprend l'exemple de coup de batte de baseball, on peut trouver ce genre de traces. Alors la forme de la trace va dépendre de l'angle selon lequel elle impacte le support. Une trace sera circulaire si elle vient heurter le support à 90 degrés. Plus l'angle s'aplatit, plus la trace s'allonge. Lorsqu'on observe des traces projetées, on peut observer deux grandes familles de distribution géographique. On va avoir des traces qui vont vous faire un rayonnement, des cônes, et des traces qui vont vous faire des lignes. Donc on sait qu'une distribution linéaire sera apparentée à un type de projection lié à des manipulations d'éléments. Et on sait qu'une distribution radiante ou en cône, on va plus les associer à un choc porté, donc à l'arme qui vient s'appuyer, fracasser le sang présent. Donc ça, c'est cette différence de distribution géographique, c'est ce que les travaux de 1895, 1939 et 1971 ont mis en avant et sont toujours d'actualité. Ce qui nous permet, sur une scène de crime sanglante, assez exhaustive en traces de sang, de pouvoir dire on a plusieurs chocs portés et on a bien, en regard de ces chocs, la manipulation de l'élément sanglanté qui les a occasionnés. Et éventuellement, on arrivait à pouvoir déterminer la position de l'auteur, tout du moins de la personne qui a manipulé l'objet. Autre cas particulier, les armes à feu. Si vous observez bien sur la vidéo, on voit que vous avez deux zones de projection diamétralement opposées. La particularité d'une arme à feu, lorsque on parle d'un tir transfixiant qui va rentrer et ressortir, c'est que lorsque le projectile rentre dans le corps humain, des projections de sang se produisent dans un sens. Et lorsque le projectile ressort du corps humain, des projections de sang se produisent dans un autre sens. On a un double cône inversé. Ça, c'est particulier aux armes à feu. Encore une fois, il s'agit d'un acte de choc. Même si c'est un projectile d'arme à feu, il n'y a que la puissance qui est différente. On rentre dans une distribution géographique équivalente à une batte de baseball. On est dans une percussion d'une masse sanglante et non pas dans le retrait d'un élément qui, lui, est ensanglanté. Donc on reste dans une distribution classique pour un choc. La différence va être la taille des traces et leur densité en quelque sorte. Vous avez à gauche des traces liées à la sortie du projectile depuis un corps, et à droite celles liées au projectile qui pénètre dans un corps. On a le même type de traces, la même taille de traces, la même forme de traces. Ce qui va changer, c'est leur concentration éventuellement. Et encore une fois, on se rend bien compte, notamment sur la sortie, où là vous avez l'orifice d'impact finalement qui finit dans le mur, qu'on n'est pas sur une ligne, on est bien sur quelque chose qui rayonne tout autour du point central. Les traces projetées, certes, on les assimile souvent à des usages d'armes, parce que c'est ce que l'on recherche, mais toute source de projection les fait rentrer dans cette catégorie. Source de projection, ça peut être quelqu'un qui a du sang dans les voies aériennes et qui va tousser, ou qui va éternuer. Le simple fait d'éternuer va projeter le sang. Auquel cas, on aura, comme si on avait mis un coup à quelqu'un, la particularité, c'est que les voies aériennes vont mélanger des bulles d'air au sang, ce qu'on arrivera à trouver visuellement. Autre cas où le sang est projeté, et finalement ce n'est pas par un objet, si jamais vous sectionnez un gros vaisseau sanguin ou une artère, la pression cardiaque va propulser le sang hors du vaisseau. Vous êtes encore dans un système de sang projeté. Si jamais vous avez un battement cardiaque qui se produit avant de masquer la plaie, vous avez ce que vous voyez en haut à droite. Si jamais la personne, malheureusement, ne masque pas la plaie, tourne sur elle-même avant de s'affaisser, vous avez ce que vous voyez à gauche. Ce que les films d'horreur aiment bien montrer quand une tronçonneuse coupe un membre, ça gicle partout. Et enfin, quelqu'un qui a encore les voies aériennes encombrées et qui va tousser et cracher du sang, va projeter du sang également, quoi. Ça, c'est la deuxième grande famille, et cette famille-là est vraiment significative de commission de violence sur un individu. Lorsque l'on trouve ces traces-là sur une scène de crime, on peut raisonnablement penser qu'on a bien eu des actes violents sanglants. À savoir qu'on peut effectivement trouver des zones de sang projetées si une personne ensanglantée chute sur le sol. On les trouve à une certaine hauteur, en général là où la tête vient heurter, où l'élément ensanglanté vient heurter un support. Si c'est la tête et que c'est sur le sol, on les trouvera au ras du sol. Si on les trouve à 50 cm de haut, c'est plus difficile. Troisième grande famille, c'est la famille fourre-tout. C'est ce qu'on appelle les mécanismes secondaires, ou les traces altérées. C'est finalement une trace de sang, quelle qu'elle soit son origine, qui a été altérée par un mécanisme. Alors ce mécanisme, ça peut être un mécanisme physique ou physiologique de décomposition du sang. Séparation du plasma des autres éléments du sang, coagulation, déshydratation. Ça peut être également, si quelqu'un commence à verser un liquide pour nettoyer, on va diluer le sang. Ça peut être également quelqu'un qui marche dans une flaque de sang. La flaque, à l'origine, c'est une trace passive. Le simple fait de marcher dedans peut projeter du sang. Ou bien peut créer un vide dans cette trace, l'empreinte de pas. Ou bien, si je décolle mon pied et que je le mets à côté, crée une nouvelle trace qui a la forme de ma chaussure. Vous en avez quelques exemples après. Une famille tout à fait intéressante et particulière, ce sont les insectes. Les insectes véhiculent les gouttes de sang. Un insecte est quelqu'un de très propre, il ne mange pas sur le corps. Il va venir se poser sur le corps, va prendre une petite goutte de sang qu'il va mettre dans ses mandibules, il va venir se poser sur un support quelconque, y déposer sa goutte de sang et la manger à ce moment-là. Le problème que ça nous crée à nous, c'est que ces traces sont très circulaires, très concentrées, et peuvent s'apparenter dans certains cas à des traces de sang projetées issues de chocs. À nous de les différencier. Ce que vous voyez en bas à droite, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez une flaque de sang. Quelqu'un commence à verser un liquide pour la nettoyer. Ça va vous diluer le sang. En haut à gauche, tout simplement, il y avait une flaque de sang. J'ai pas fait attention. J'ai marché dedans et après, j'ai mis mon pied sur le sol. J'ai fait un transfert de ma chaussure. J'ai créé une trace de sang. Une absence de trace de sang est une trace de sang. Aussi aberrant que ça puisse paraître, dans certains cas, le fait de ne pas trouver de trace de sang à un endroit où logiquement il devrait y en avoir est porteur d'éléments. En haut à gauche, tout simplement ce que vous avez, c'est une flaque de sang où, par exemple, on a mis un coup de balai dedans. Donc on a altéré la trace d'origine. Par contre, ce que l'on voit apparaître, c'est le mouvement éventuellement de nettoyage. Et dans certains cas, on peut identifier l'objet qui l'a fait. A l'inverse, je reprends mon exemple tout à l'heure, j'ai une flaque de sang, je suis tombé dedans, j'ai mis les mains, je me suis redressé et j'ai glissé, ma main a glissé, j'ai créé une trace de sang. Lorsque l'on fait ce catalogue, je dirais, on le fait par rapport à des critères qui sont figés. Ce tableau ici est un des tableaux qui vous met en corrélation les critères morphologiques et le type de trace de sang, tout du moins le nombre de critères minimum qu'il faut pour pouvoir définir précisément une trace. Par exemple, si jamais je veux dire que j'ai une trace comme celle-ci, pour pouvoir affirmer que je suis bien en présence d'un transfert par ripage, parce que c'est le nom de cette trace-là, il faut que j'y retrouve un certain nombre de critères morphologiques définis. Si je n'ai pas ce nombre minimum de critères morphologiques, même si je pense qu'il s'agit d'un transfert par ripage, je ne pourrai pas l'appeler transfert par ripage. Je l'appellerai trace de sang. Parce que le nombre minimum de critères ne sera pas réuni. C'est ce qui rend objective cette partie de morphoanalyse. C'est que nous avons des critères bien définis et que dès lors que nous n'en avons pas assez, on n'appellera pas ça transfert par ripage, mais trace de sang. Le but de cette première étape, c'est de faire le catalogue exhaustif des traces de sang présentes sur une scène de crime et de leur donner un nom. Un nom de mécanisme de création. Ce qui nous permet de dire, projection issue de choc, 5 par exemple. Ça veut dire que j'ai au moins 5 coups. Projection par rejet, 2. J'ai au moins 2 manipulations d'éléments ensanglantés. Ça, c'est purement objectif. Comme je vous le disais tout à l'heure, lorsque j'ai la chance d'avoir du sang projeté parce qu'il y a eu des coups de portée, on peut essayer de positionner la victime lorsque le coup a été porté. Donc déterminer la position de la source de sang lorsque le choc a été porté. Alors on va toujours employer le terme source de sang. Pourquoi ? Parce qu'on ne pourra pas vous dire si la victime, la blessure est à la tête, au pied, au bras ou autre chose. Ça, c'est un médecin légiste qui pourra le dire. Et si la chance veut, sauf pour la victime, que toutes les blessures soient à la tête, on pourra effectivement dire, lorsque la victime a pris les coups, elle était au ras du sol, debout, assise. Par contre, si malheureusement, parce que la victime n'est pas coopérative, elle a été blessée à la tête et au pied, on ne pourra jamais vous dire quelle source de sang a créé cette trace qui est près du sol ou au niveau du plafond. On n'a pas le moyen de les différencier. L'étude de trajectoire, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est simplement l'application d'un principe balistique à une goutte de sang. Pour réaliser l'étude de trajectoire, nous avons 3 techniques. Une technique qu'on va appeler la technique non informatique et la technique ancestrale, qu'on utilise toujours actuellement, c'est simplement des ficelles, qu'on va détailler un petit peu après. Une seconde technique qu'on a appelée la technique informatique, c'est que plutôt que de prendre des ficelles, on a pris des logiciels informatiques. C'est quand même plus pratique, plus précis et moins fastidieux. Et enfin, la troisième technique, qui elle, on a appelée intégrée, c'est le laser scan. Parce que le laser scan, non seulement il nous permet de faire nos constatations de morphoanalyse, mais surtout il nous permet, dans un environnement virtuel en 3 dimensions, de reconstituer la trajectoire des projections. Donc la technique ancestrale, ou dite non informatique, c'est ce qu'on appelle la technique des ficelles. Tout simplement, si l'on prend une trace de sang, ce n'est pas un grand secret d'en dessiner une, tout le monde a déjà vu une trace de sang de cette forme-là. Bon. Cette forme-là nous donne 2 indications. La première, qui est visuelle, nous donne son sens de déplacement. Vous avez une partie très arrondie qui est l'endroit où le sang vient taper sur le support, et une partie très effilée qui est l'endroit par où le sang s'échappe. Mon angle directionnel est trouvé. Ma trace de sang va dans ce sens-là. Si j'ai une verticale, il est facile de calculer un angle. Après, grâce aux travaux du professeur Balthazar, grâce à la largeur et à la longueur de la trace, je peux calculer l'angle d'écart par rapport au support. Cet angle directionnel avec une ficelle est très facile à matérialiser. Le problème que cela pose, c'est que je resterai purement dans un système deux dimensions. Je serai plaqué sur mon support. Parce qu'il est très difficile avec des ficelles, même si c'est techniquement réalisable, de pouvoir matérialiser l'angle d'impact par rapport au mur. On n'a pas forcément le support, le bon rapporteur et le système pour calculer et placer la ficelle. Donc on en restera avec un système purement plaqué au mur qui sera en deux dimensions. Dans certains cas, en fonction du type de support sur lequel nous travaillons, là où on sait que les logiciels informatiques n'auront pas d'utilité parce que les traces sont de mauvaise qualité, on est contraint d'utiliser encore la technique des ficelles. Ce qui donne encore de bons résultats. Parce que par rapport à ça, même si vous n'avez pas l'éloignement par rapport au support, vous pouvez quand même déterminer une hauteur de choc et éventuellement un tube de cohérence, en sachant que si mon point d'origine est là, contre le mur, si je projette ce tube tout au long de mon couloir, par exemple si c'est un couloir, ça veut dire que ma victime est quelque part sur cette hauteur-là. Et j'ai peut-être quelque part une autre trace de sang qui me permettra de recouper ce tube et de dire qu'elle était à cet endroit-là précisément. Vous avez ici un exemple sur une petite zone de la technique des ficelles. Vous prenez les traces de sang, vous mettez les ficelles, vous avez un nuage de points. Ce nuage de points, le point central, vous donne une position approximative, imprécise peut-être, mais approximative quand même, de l'emplacement de la blessure lorsque le choc a été porté. Vous avez un deuxième exemple. Et un troisième, où là seules les projections des extrémités des cônes ont été matérialisées, et où là on arrive déjà à dénombrer qu'on a au minimum 5 coups qui ont été portés. La deuxième technique employée, c'est celle qui permet d'utiliser un logiciel informatique. Pour cela, il nous faut des traces de sang d'une certaine qualité et soumises à un protocole photo très strict. La moindre déformation ou la moindre inexactitude dans la photo qui est prise va forcément entraîner des erreurs de calcul après. La grande différence, c'est que les ficelles que l'on tirait avant physiquement, manuellement, c'est le logiciel qui va nous les tirer automatiquement par rapport à la forme de la trace, à ses dimensions et à l'emplacement géographique de la trace. Vous avez ici un exemple de multi-coups portés sur une scène de crime. On voit bien, si vous vous souvenez tout à l'heure des photos, qu'il ne s'agit pas de quelque chose en ligne, mais on a bien ou un cône ou une distribution tout du moins assez large. On a nos fameuses projections, comme on voit tout à l'heure. Et voilà ce que ça nous donne. Là, vous figurez que vous voyez la porte de placard, vous la voyez sous le même angle. Ce que vous voyez matérialisé ici, de différentes couleurs, ce sont les trajectoires calculées par le logiciel, par rapport aux traces de sang que l'on a sélectionnées et par rapport aux dimensions des traces de sang. Ce n'est pas très visuel, c'est un mélange de plusieurs coups. Cette vue-là, vue du dessus, est quand même plus parlante. On reprend notre porte de placard qui est ici, vue du dessus, et l'angle que forme le mur. Et là, on commence à voir que nos trajectoires de gouttes de sang se recoupent à certains endroits. L'avantage, c'est que là, on rentre dans une notion deux fois deux dimensions. On ne visualise pas en 3D directement, mais on a une vue de face et une vue dessus. Les deux mises bout à bout font bien trois dimensions. Avec ça, on arrive à déterminer des coordonnées géographiques matérialisées par cette barre et ce point moyen, avec le Z qui correspond à une hauteur par rapport au sol, le X un éloignement de support et le Y aussi. Les virgules, pour reprendre ce que disait tout à l'heure lors de la conférence le commandant Perrotte, dans son système de calcul, les virgules sont aberrantes. Dans le nôtre, c'est pareil. Nous, ce qui nous intéresse, Non pas c'est de dire que la personne est à 30 cm,5 du sol lorsque le choc est porté, ça ne veut rien dire. C'est de pouvoir dire la personne elle est debout, assise, couchée. Ça n'aura pas la même pertinence. Et les grandes postures générales sont largement suffisantes. Ces indications chiffrées nous permettent d'affiner la position, c'est tout. Les virgules, quand on sait qu'on travaille sur une zone qui n'est pas un point unique, la virgule n'a pas d'intérêt. La dernière méthode que l'on emploie, et ça c'est le fameux laser scan, ce que vous voyez en bas à gauche. Donc comme je vous le disais, outre le fait d'aider de façon très conséquente aux constatations, il permet une étude de trajectoire réellement en trois dimensions. La Z-scan, c'est cette petite bête-là. Donc vous avez la tête tournante là-haut, le trépied en dessous et l'ordinateur qui récupère les données. Pour traiter une pièce comme celle-ci, un scan, c'est 7 minutes. Si vous voulez avoir après la notion de texture et de couleur, vous rajoutez 3 minutes. Donc en 10 minutes, sauf obstacle visuel qui nécessiterait de faire deux scans, vous avez la pièce complète à l'échelle, en 3 dimensions. Donc vous avez une photo réelle de la scène, d'une partie de la scène de crime. Vous avez ce que le nuage de points en noir et blanc va donner. Alors, cette impression de bulle arrondie, c'est normal. Si vous prenez quelque chose de sphérique, que vous le dépliez, vous n'avez pas des bords droits. Ça, c'est une visualisation de travail. Après, vous avez une vue 3D qui, elle, vous redonne les proportions réelles avec les angles. On remarque, donc là, on a la zone de la photo précédente. Lorsqu'on a fait notre morphoanalyse, nous avions des projections de sang sur différents supports. Le but était de voir si on pouvait déterminer une position de blessure. Vous avez donc toujours extraite du laser scan une vue en trois dimensions, où vous remarquez qu'on remarque bien donc la fenêtre, le radiateur, le canapé, les éléments présents en trois dimensions, les photos présentant nos traces de sang, et le point rouge que l'on voit sur le canapé, une position lorsqu'un coup a été porté. Donc là, avec cet outil-là, on peut transposer la position d'une source sanglante lorsqu'un choc est porté réellement dans un environnement 3D représentatif de la réalité. Ce qui est quand même plus parlant qu'une grande page d'explication de termes techniques. Une photo, si vous dites « la personne est sur le canapé lorsque le coup a été porté », c'est visuel. C'est largement suffisant. Vous restez objectif. Si vous commencez à essayer d'interpréter parce que la photo n'est pas là, ça devient totalement subjectif. Un autre exemple, où là vous combinez les ficelles, les projections. Ficelles, on est dans l'environnement 2D, j'ai plaqué mes ficelles sur mon mur. Le problème, c'est que je sais que j'ai un écart par rapport au mur. L'angle d'impact, ce ne sont pas des trajectoires rasantes. Le problème, c'est que je ne peux pas forcément le déterminer sur les lieux. Donc là, j'ai mon couloir, mes projections, mes ficelles, mon laser scan du couloir, ma vue en 3D, mes projections et mon point de convergence. Là, si je dis qu'il y a eu un choc de portée dans le couloir, oui, effectivement, mes trajectoires montrent bien que j'ai un choc porté dans le couloir. J'en ai même les coordonnées en trois dimensions. Petit exemple, vous allez me dire, bon, c'est bien joli tout ça, maintenant, qu'est-ce qui prouve qu'effectivement, la victime était bien là lorsque le coup était porté? C'est ce que vous nous dites, c'est ce que le logiciel a calculé, c'est ce que le laser scan a permis de faire, seulement ça ne le démontre pas. Effectivement, les photos précédentes sont des photos issues d'une scène de crime réelle. La victime était-elle bien à cet endroit-là, comme je le prétends? Nous avons fait ici un des tests de validation avant de l'employer, parce que tout nouvel appareil avant de l'employer dans une technique, on doit le valider pour emploi. Ça consistait très simplement à prendre une pièce à l'institut à Rosny-sous-Bois, de prendre un chevalet en bois, à y poser une éponge ensanglantée, à taper dessus comme un malade pour mettre des traces de sang partout, et puis à numériser la scène de crime, la modéliser, faire l'étude de trajectoire et voir si on trouvait le résultat correspondant à l'essai. On le voit peut-être très mal de votre position. Ici, vous avez des carrés dessinés au feutre. Ce n'est pas parce que ça faisait joli, ce sont tout simplement les emplacements des chevalets avant que les coups aient été portés. Il y a un coup porté sur chaque. Ce que vous avez sur le mur, c'est un quadrillage fait en ficelle pour servir de repère photographique. Et les tests centimétriques vous indiquent l'emplacement des projections de sang. Vous avez ici la visualisation 3D de cet même espace grâce au laser scan. Ce que vous avez en bistre, ce sont toutes les projections étudiées. Et ce que vous avez en rouge, notamment pour celui-ci, c'est le point, l'emplacement d'une zone de choc soumise au coup de batte de baseball que j'ai porté. Lorsque l'on fait la projection, comme l'a fait le laser scan, à la verticale, on arrive pile poil dans le carré où était mon chevalet. Donc encore une fois, je ne suis pas précis au millimètre, je ne le serai jamais. Mais je suis bien dans la zone et mon résultat n'est pas aberrant. Ça, c'est pour, je dirais, l'emplacement en X et en Y, rester à déterminer la hauteur. Le logiciel me l'a estimé à 85 cm, mon chevalet devait faire 81 cm plus l'éponge au-dessus. Donc encore une fois, dans mes trois dimensions, mes résultats sont cohérents et ne sont pas aberrants. Donc, l'emploi du laser scan est possible pour faire ce travail-là. Donc le but de cette étude trajectoire, la morphoanalyse ne se résume pas à ça. C'est le plus intéressant pour nous, morphoanalyse, parce que c'est la petite cerise sur le gâteau. Ça permet de dire, oui, la personne était assise, debout, couchée, ou il y a eu plusieurs coups, il se sent enchaîné de telle hauteur à telle hauteur. Ce n'est qu'un complément d'information. Une morphoanalyse sans ça a toute sa valeur quand même. Le but, c'est uniquement de positionner l'emplacement de la blessure avec la restriction que si les blessures sont à des endroits diamétralement opposés, on ne pourra jamais vous dire si le choc est porté sur le pied ou sur la tête. Toute cette partie développée, finalement, c'est que la première partie, la moins intéressante pour les magistrats, parce qu'il ne faut pas oublier que nous travaillons pour nos collègues gendarmes, pour les collègues policiers aussi, parce que nous étant les seuls à les faire, il faut bien qu'on travaille pour eux, mais également pour les magistrats, essentiellement, qui sont nos donneurs d'ordre. De ce que j'ai appelé donc ces éléments de scène de crime que vous avez en haut à gauche, pour pouvoir être plus précis par rapport aux éléments sanglants trouvés sur une scène de crime, nous avons besoin de la procédure faite par les gendarmes ou les policiers, qui eux vont nous décrire réellement l'état des lieux lorsqu'ils sont arrivés les premiers sur les lieux. Également des constatations de médecine légale pour situer les blessures, leur nature. Si c'est une blessure cardiaque avec un jet artériel, oui, on peut expliquer pourquoi on en trouve sur le terrain. Et on pourra donc situer l'endroit où cette blessure a été faite. Et si cette blessure, le médecin légiste nous dit qu'elle est immédiatement mortelle, ça veut dire que si on a des traces de déplacement de personne, c'est ou la victime qui a été tirée sur le sol parce qu'elle était déjà morte, ou une tierce personne. Ce sont des éléments qui permettent d'affiner notre interprétation des faits sanglants. Avec cet ensemble d'éléments, nous allons donc formuler une hypothèse privilégiée, une parmi tant d'autres, de déroulement des faits sanglants. Et à la fin, un scénario privilégié. Ce scénario, malheureusement, il ne dira jamais de A à Z ce qui s'est passé chronologiquement. Ce n'est pas possible. Il donnera dans certains cas que des instantanés des événements sanglants. Pris isolément, c'est frustrant. Corroborer avec les auditions des personnes mises en examen ou d'un témoin, ça a plus d'intérêt. Parce que finalement, à très peu de traces de sang qui ne permettent pas de faire un scénario complet, lorsque l'on corrobore ces traces-là à des auditions, on peut finalement dire oui, la personne, ce qu'elle vous dit est plausible, ou non, c'est totalement faux. Et dans certains cas, une personne qui est accusée d'avoir commis un fait peut être disculpée grâce à ces éléments-là. Confère 1955, l'affaire du docteur Shepard. Il serait sur la chaise électrique depuis longtemps si jamais la morphoanalyse n'était pas intervenue. Donc, comme je vous l'ai dit, le but de ce soir n'était pas de vous apprendre à faire de la morphoanalyse. Il vous faut 2-3 ans si ça doit être le cas. Le but, c'est de vous dire ce qu'est la morphoanalyse et en quoi ça consiste. Donc, la morphoanalyse, ça permet de quoi ? Bah, de déterminer les mécanismes de création des traces de sang rencontrées sur une scène de crime. D'établir les mécanismes à l'origine des projections. Est-ce que c'est une arme à feu ? Est-ce que c'est éventuellement un coup de couteau ? Est-ce que c'est une batte de baseball ? Est-ce que c'est un coup de poing ? De déterminer la position des protagonistes, notamment celui de la victime par rapport aux projections de sang, ou celui de l'auteur par rapport à une zone dépourvue de traces de sang ou à une manipulation d'éléments ensanglantés. Déterminer également le ou les scénarios possibles ayant provoqué les traces sanglantes examinées sur une scène de crime. Mais également, comme je vous l'ai montré avec le réactif chimique, de rechercher des traces de sang non visibles à l'œil, de prélever ces fameuses traces et de préparer donc une extraction ADN permettant de dire c'est le sang de l'auteur, c'est le sang de la victime ou c'est le sang d'une tierce personne. Voilà ce qu'est la morphoanalyse. S'il y a des questions... c'était soft. J'ai enlevé les plus sanglantes.
Oh, voilà, merci. Attends, bah, je venais avec le micro deux secondes.
Vous n'avez pas étudié l'affaire de Homer Mathé, là ?
À cette époque-là, la morphoanalyse n'existait pas. Pas en France, tout du moins, non ?
Bonsoir. Je voulais savoir s'il pouvait y avoir des différences dans les traces de sang par rapport au support. J'imagine, par exemple, ce que vous nous avez présenté là-bas, donc le point de fuite. Si on est, par exemple, sur une moquette, est-ce que ça va... est-ce que ça va pas dévier un peu votre analyse?
Ça va pas faire ce qui va dévier notre, c'est pas dévier notre analyse, c'est la nature du support va influer sur la forme de la trace. Si je prends un support lisse comme du carrelage ou comme du verre, ma trace a très forte chance d'être intacte. Si je prends un support comme un vêtement, même s'il est en chemise en tissu, le simple fait que le sang soit bu par le tissu va déformer la forme de la trace. Si je mets ça sur de la moquette un peu plus épaisse, ça va être encore plus le cas. Et sur de la moquette très épaisse, il y a de fortes chances que le moindre fibre de la moquette détruise la trace lorsqu'elle impacte.
Donc la trajectoire, là, on fait comment ?
On ne pourra même pas la faire parce qu'on n'aura pas notre forme de trace d'origine. Donc en fonction, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fonction de la nature du support, on prend un papier peint gaufré, ou comme ici, la toile qui est sur la sorte de crépi que vous avez au mur, la forme qui va impacter dessus sera imprécise de par l'irrégularité du support. Donc plus le support est irrégulier, moins on en prendra compte, moins on tiendra compte des traces présentes dessus pour faire une idée de trajectoire. Parce qu'on sait très bien que les résultats seraient totalement faux.
D'accord.
La forme ne sera plus la forme d'origine. Nous, on a besoin, vous l'avez vu tout à l'heure sur les photos, vous avez des photos de traces sur un support lisse, on voit bien la forme de la trace. Il nous faut vraiment cette qualité-là pour pouvoir travailler. Tout du moins, en étude de trajectoire, je parle. Sinon, ce serait de rendre un résultat qui serait aberrant, donc ça ne vaut pas le coup.
Merci.
Je vous en prie.
Merci. Vous avez montré plusieurs cas. Vous avez montré le coup statique, ça tombe, et vous avez montré ensuite le cas projeté. Quand il y a projection, comme ça, ça peut être projeté à différentes vitesses. Si vous ne projetez pas trop vite, au lieu d'avoir une trajectoire rectiligne, vous avez une trajectoire parabolique, comme quand on lance une pierre. Est-ce que vous tenez compte du fait que la trajectoire n'est pas forcément rectiligne ?
Alors, lorsqu'on fait une étude de trajectoire, si vous prenez la méthode des ficelles ou le logiciel informatique qui était la méthode informatique, on examine toujours la trajectoire vue par le dessus, là où finalement elle est rectiligne.
D'accord.
Une trajectoire d'un corps dans l'espace sera toujours, à cause de la gravité, parabolique. Tout dépend à quel moment on se place pour l'examiner. Vous parliez de vitesse, vous parliez d'impact, de puissance d'impact. Ce que la puissance d'impact va avoir comme effet, ça ne va pas être sur la trajectoire, ça va être sur la taille de la trace éventuellement, et sur la distance qu'elle va parcourir. Mais en soi, ça restera toujours une trajectoire parabolique d'une goutte de forme sphérique. Sa forme, en forme d'œuf, que vous voyez lorsqu'elle impacte le mur, n'est pas liée à la puissance de l'impact porté dessus, mais uniquement à l'angle sur lequel elle impacte le support. Lorsqu'on fait des études de trajectoire, elles sont représentées de façon rectiligne. C'est une aberration, parce que dans l'espace, elles ne voyagent pas de façon rectiligne. Ou alors, il ne faudrait pas avoir de la pesanteur qui va dessus, quoi. Et elles sont toujours, c'est pour ça que ces premiers logiciels déterminaient, calculaient un X et un Y et estimaient un Z, donc une hauteur. Parce qu'on se posait toujours au-dessus en les observant par le dessus. Ou là, si vous avez une parabole de vue latérale, si vous placez au-dessus, elle est forcément rectiligne. C'est une erreur de calcul parce que réellement, ce que l'on calcule, ce n'est pas la trajectoire totale de la projection. On détermine la dernière tangente à l'impact, juste avant l'impact. Mais cette somme d'erreurs, finalement, ne crée pas d'erreur de calcul dans la détermination de la position.
Alors maintenant, une question d'information. Quand vous tapez, c'est sur des éponges, hein, que vous tapez pour...
Là, en l'occurrence, c'est une éponge pour l'essai.
Ça peut partir très vite, le sang ?
Ah oui. Oui, j'ai mon collègue qui l'a pris à ses dépens. Il était à 5 mètres, il en a pris plein la figure. Si, si, la source... Alors, ce qui est aberrant, c'est que ce n'est pas la puissance que vous donnez à un impact sur une goutte de sang qui va faire qu'elle va aller très loin. Si vous tapez très fort sur une goutte de sang, vous allez la fractionner en de tout petits éléments. Finalement, ils n'iront pas loin du tout. La friction de l'air, la gravité, tout ça va la rattraper bien avant, elle va tomber. Si vous tapez doucement sur une source de sang, vous allez créer des grosses traces. Ces grosses traces, elles, vont aller très loin, parce qu'elles seront moins soumises à la gravité. Bon, pour avoir fait l'essai lors de ma formation, 5 mètres après, mon collègue, il en était couvert, quoi. Et ça peut aller encore plus loin, quoi. Ça va loin.
Est-ce que vous pouvez nous dire si le sang présente les mêmes qualités que, par exemple, l'encre en matière de détermination d'empreintes sur les doigts, donc dactylographie, ou bien... Tout à l'heure, on a vu une marque sur des chaussures. Je pense que ça doit pouvoir aider à identifier le...
Une empreinte de doigt sanglante, bah, vous en avez ici.
Voilà, c'est ça. Oui.
On peut très bien faire une comparaison.
Ça peut être analysé, c'est aussi bien que...
Oui. Mais ce que vous examinez, c'est le dessin digital, en l'occurrence. Une empreinte de chaussure sanglante, c'est le même système qu'une empreinte de chaussure dans la boue dont vous faites un moulage. Tout dépend de la quantité d'informations que vous véhicule cette empreinte. Si elle est complète, pas complète, si le support est régulier, irrégulier. Mais à la base, le dessin digital pour une empreinte digitale, bah, une empreinte sanglante, oui. Vous avez même des produits qui permettent de les fixer sans utiliser des poudres pour pouvoir travailler après dessus. Ça ne pose pas de problème.
La deuxième question que je voulais vous poser, c'était la. Vous disiez tout à l'heure quand même que lorsqu'une trace de sang avait été essuyée, ou qu'on pouvait donc faire une analyse ADN. Qu'en est-il de la quantité minimum de sang nécessaire pour analyser la trace
ADN? Il y a une quantité minimum.
Vous savez, non?
Oui, je sais, oui. Moi, je le sais. C'est à moi de le savoir. Non, non. Il faut savoir que, oui, ça fonctionne. Ce produit-là a été développé. C'est un des derniers produits qui avait été développé au début des années 2000. Pour contrecarrer le fait que les autres produits existants tuaient l'ADN. Donc celui-ci a été développé parce qu'il avait la particularité de ne pas tuer l'ADN, donc de permettre une analyse génétique derrière. Donc ça fonctionne.
Oui, donc ce fameux produit là qui permet de révéler des traces de sang nettoyées.
Je ne vous donnerai pas le seuil.
Non, mais je ne le veux pas. Non, je voulais savoir si c'était infini dans le temps ou s'il y avait un laps de temps durant lequel après on ne pouvait plus révéler les traces de sang. Certains, même si on ne nettoie pas, bien sûr.
Certains se sont essayés, sont les Américains, et ils ont réussi à trouver du sang 140 ans après. À faire réapparaître du sang 140 ans après. Donc on peut imaginer aller encore plus loin comme aller moins loin. Je dirais, la durée de vie, c'est pas ça la problématique qui rend ce produit opérant ou pas. Ça marche sur du sang très ancien.
D'autant que c'est pas lié au sang. C'est pas lié qu'au sang.
On est bien d'accord. Il y a bien d'autres limites aux produits qui font que, mais en l'occurrence là, pour les 140 ans, c'était du sang. Et 140 ans après, on pouvait encore le mettre en avant, quoi.
D'accord. Et le seuil ? Non, je plaisante.
Un certain seuil. Là, ça serait peut-être un peu... Bon, après tout, il faut essayer. Il y a un principe au niveau de la... Il y a un principe de laboratoire, c'est qu'un test, il faut le valider. Vous validez avec plusieurs essais. Mais je pense que si on leur détruit le linceul de Turin, ils vont peut-être pas être d'accord pour leur dire qu'on met du booster dessus, quoi.
Pas de dernière question. Bon, je vous remercie, monsieur Clou, parce que je sais qu'il doit repartir justement sur une scène de crime pour être tôt demain matin sur le terrain. Donc, merci pour toutes ces informations. Et puis, j'invite le public à aller voir Scène de crime, l'exposition présentée jusqu'au 23 novembre à l'espace Mendès France. À bientôt. Au revoir.